Vivre dans une ancienne maison de retraite du quartier, les manifestants réclament une solution durable. Une course-poursuite endiablée hier dans les Côtes d'Armor, ça s'est passé sur la Nationale 12, entre Rennes et Brest. Un chauffard de 20 ans téléphone au volant et tente d'échapper à un contrôle de police. C'est parti alors pour 30 km de course-poursuite, des pointes à près de 140 km/h. Il tente ensuite de s'enfuir à pied, mais les gendarmes sont parvenus à l'arrêter. Il a été placé en garde à vue.
Le stade rennais s'est fait peur hier soir à Metz.
Match nul, un but partout pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Mais que ce fut dur. Saïd pour Rennes a égalisé à la 90e minute. Le premier but avait été marqué juste avant la mi-temps à cause d'une erreur du défenseur central Joris Niagnon. Ce match laisse un goût amer au coach Christian Gourcuff.
Il y avait vraiment moyen de faire autre chose pour une première mi-temps où qu'on a géré. Et je pense que l'erreur de Joris Niagnon est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on est facile, on s'installe tranquillement, alors qu'il y avait moyen vraiment de prendre les choses en main. En apportant davantage de mouvement et de rythme dans les passes, on avait vraiment les possibilités de faire la différence déjà sur la première mi-temps, même si on a deux grosses occasions aussi. Et après, ça change la donne, hein, évidemment, sur l'efficacité. Et puis après, après la mi-temps et ce but casquette, on est dans une autre situation où là, c'est une deuxième mi-temps pratiquement attaque-défense, mais enfin, dans un jeu très, très débridé. On a eu le mérite, en tout cas, de persévérer et puis d'insister. On a eu beaucoup d'occasions aussi. C'est clairement le type de match où on doit afficher davantage de maîtrise et de constance déjà dans l'intensité, surtout dans notre jeu, pour ne pas se retrouver dans des situations comme ça où on court après le score, où on a plus de lucidité, où on tente le tout pour le tout, quoi.
Les Rennais sont 8e ce matin au classement. Puis dans les autres rencontres, match nul aussi pour Guingamp, un partout à Montpellier. Lorient accueille Marseille aujourd'hui à 15h.
Retrouvez toute l'info de France Bleu
sur francebleu.fr.
Sur francebleu.fr.
La météo, c'est très très chargé, des orages à prévoir aujourd'hui.
Oui. Et ça arrive de l'ouest, cette perturbation, même si elle s'est installée, vous l'avez dit tout à l'heure Théo, dans tout le nord-ouest de la France et même en Île-de-France. Mmh. Eh bien là, il y a une traîne qui arrive par l'ouest avec effectivement du grésil, de la grêle, des orages, des rafales de vent importantes, hein, jusqu'à 110 km/h. Et cela devrait se calmer en principe, en tout cas décroître en fin d'après-midi. Attention, les orages peuvent être violents, il peut y avoir quelques soucis, on n'espère pas, évidemment. Les températures attendues, elles seront entre 10 et 12 degrés.
La météo avec Murprotec Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Et avec un tel vent, il peut y avoir des petits soucis sur la route, bien sûr, ou chez vous d'ailleurs, des problèmes de toiture par exemple. Oui, mais ça tombe bien, parce qu'on va parler d'habitat dans un instant à Saint-Brieuc. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous observez sur la route. On fait cette route ensemble, solidaire, au 02 99 67 35 35.
La météo avec Murprotec Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Nous allons partir à Saint-Brieuc tout de suite avec nos camarades Daniel Mélou et Félix Legrand qui vont nous faire partager les bons moments sans doute du salon de l'habitat à Saint-Brieuc et on va parler évidemment jardin également.
Et oui. Bonne matinée sur France Bleu Armorique. Ce matin, émission spéciale en direct de Saint-Brieuc.
Bienvenue Daniel.
Bienvenue, oui, à Saint-Brieuc. Merci Ronan Manuel. Vous parliez de vent et effectivement, on peut dire que...
Un tisef brioche, ça souffle.
À des corneaux les bœufs, comme on dit dans le coin aussi quand on cause.
À des corneaux une pinoire, on dit.
Ah oui, vous en avez vu de bien belles. Ben, ce ne sont pas tout à fait des pinoires, mais des roses, des arbustes, des paysages de jardin façonnés par l'homme qui nous entoure ici pour ce spécial jardin bleu en direct donc du parc de Brésillier où nous allons bien sûr vous accueillir tout de suite au 02 99 67 35 35 vous qui avez des questions à poser à notre expert qui s'installe.
Bienvenue à Saint-Brieuc, émission jardin en direct du salon de l'habitat.
Philippe Munier, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Alors, ravi de venir nous rapprocher de vous, finalement. On est un peu dans votre pays, là, pour...
Ah oui,
pour
vous avez enfin franchi la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, c'est bien.
Le climat n'est plus du tout le même.
Ah non, c'est beaucoup plus vivifiant. Hein.
Voilà, on sent ce zèph et on sent bien que Mars va nous jouer aussi ses giboulées, comme habituellement, donc voilà, on peut sortir un peu dans le jardin, mais pas trop, faut pas trop s'avancer, on continue à préparer le printemps qui arrive à grands pas quand même.
C'est ça, on commence à trier les graines allègrement, et puis entre deux giboulées, on va les semer.
Et ben voilà. Et puis tout de suite, eh bien, on va prendre un premier auditeur au 02 99 67 35 35. C'est Joël qui est à Saint-Malo. Bonjour.
Bonjour. Je vous téléphone pour un cas très particulier. Hein. Ça n'a pas rien à voir avec les arbres. Mais j'ai été envahi pendant 3 jours de vers, des petits vers qui ont une longueur de 5 mm à 1,5 cm environ, qui se déplacent en reptation. Et qui sont d'une couleur grise à gris foncé à gris très clair.
Mais c'est pas sur vos plantes en fait.
Non, ça vient du jardin.
Ouais, et c'est dans votre maison,
ça rampe sur les terrasses du jardin.
D'accord.
C'est incompréhensible, j'ai jamais vu ça de ma vie.
D'accord, donc des vers gris, comme vous dites.
Ouais. Et par hasard, quand vous les regardez bien, ils n'ont pas une espèce de... On a l'impression que ça fait comme des antennes, des petites plumes un petit peu, non?
Non. J'ai regardé à la coupe, ils n'en ont pas.
Bah faites des photos, mais il y a un truc qui est très courant, hein, qu'on voit pas tout le temps, mais qui arrive pourtant régulièrement, c'est la remontée des tipules. Donc les tipules, c'est les vers, on les appelle en général les vers bruns plutôt, qui mangent allègrement les racines de votre gazon, et qui par moment, les raisons exactes, on les connaît pas trop. Dans certains cas, on se dit c'est peut-être parce qu'il y a trop d'eau, mais c'est pas vraiment très le cas en ce moment. Tout d'un coup, sortent en quantité mais phénoménale. Et s'accumule sur un endroit et on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est effectivement c'est assez impressionnant. Et je pense que c'est ça en fait. Hein.
D'accord.
Donc, dans ce cas-là, vous en profitez pour les récupérer, vous les mettez dans un sac plastique et vous mettez ça à la poubelle. Comme ça fait moins de tipules à manger votre gazon.
Et vous les comptez au passage, voilà, si vous avez un peu de temps à consacrer à tout ça. Bon voilà, merci pour votre première question, Joël. On vous souhaite
C'est tout. Hein. J'ai éradiqué le problème, donc on verra si ça recommence.
Vous nous rappelez bien sûr si ça persiste et s'il s'avère que c'est autre chose. Bonne journée à vous à Saint-Malo, au revoir. Max est à Rennes, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous avez un chlorophytum.
C'est un chlorophytum.
Ouais.
Parce que
qu'est-ce qui lui arrive?
Il a du mal à se développer à cette fois-ci. Là, est-ce que c'est par manque des fois de luminosité ou parce que c'est que l'hiver les plantes ont plus de mal que...
Donc c'est quoi le symptôme? Il est
les feuilles qui ont du mal à se développer. Ça,
Oui, parce que le chlorophytum c'est quand même une plante assez facile. Hein. Le chlorophytum c'est ce qu'on appelle aussi la plante araignée. Hein. C'est cette plante de sortir des tiges et sur laquelle renaissent d'autres plantes qu'on va pouvoir replanter. C'est une plante facile. C'est une plante qui résiste à peu près tout, sauf le gel évidemment. -2, -3, elle commence à avoir très très mal. Mais à part ça, elle est vraiment adaptable. Même si on oublie de l'arroser, même si on lui la met dans des coins pas trop lumineux, mais c'est vrai que dans ces cas-là, elle devient beaucoup moins jolie. Hein. Les feuilles sont beaucoup plus... Déjà que c'est une plante panachée, donc là, les feuilles deviennent toutes jaunes, toutes moches. On est en fait une période où les plantes doivent redémarrer, hein, parce que les journées augmentent. Donc essayez de lui mettre peut-être un petit peu de lumière, éventuellement un petit engrais plante verte, un engrais organique évidemment, hein, plante verte, de manière à la booster un petit peu, et puis théoriquement ça devrait redémarrer. Hein.
Voilà, donc ne vous affolez pas outre mesure, Max. Bonne journée, merci beaucoup. Germaine, on revient en Côte d'Armor, à Erquy. Bonjour Germaine.
Bonjour tous les deux. Moi c'est à propos des hortensias. Donc je ne fais pas comme Philippe, je ne les taille pas en automne, je les taille au printemps. Or, ils portaient déjà leur bouton pointu qui est annonciateur de fleurs.
Tout à fait.
Le gel est passé par là. Ces boutons pointus eh ben, ils ont gelé, ils sont tout secs, et si on les pousse, eh ben, ils tombent. Alors, comment faire pour tailler les hortensias maintenant?
Du coup, le problème est résolu. Il n'y a plus de problème. Vous pouvez les raser, les tailler entièrement. Vous gardez peut-être, il y en a quand même quelques-uns qui ont dû tenir le froid. Vous avez peut-être quand même une variété bizarre, parce que bon, les miens, ils ont pris du froid aussi, et puis ils sont encore là. Donc, il y a peut-être une variété qui est un peu plus sensible au froid.
Je les ai depuis très, très, très longtemps. Ils fleurissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et bon, ils sont pleins de restes.
Là, vous aurez moins de fleurs cette année, hein, parce que déjà la première floraison est partie, donc avec ces bourgeons congelés. Mais beaucoup de variétés sont capables de redémarrer une deuxième floraison, mais qui du coup est plus tardive, hein, qui arrive dans le cœur de l'été. Mais du coup, je vous dis, vous pouvez vous les tailler relativement court, ça va les régénérer un petit peu. Vous les nourrissez bien, hein, parce qu'après un coup de gel comme ça, ils doivent être un petit peu fatigués quand même. Donc un très bon compost et puis un bon matelas de feuilles mortes pour garder la fraîcheur, l'humidité pendant l'été, et puis c'est reparti. Hein.
Y a pas de problème. D'accord. Mais on peut pas, en redescendant sur la branche, on peut pas trouver d'autres boutons à fleurs.
Bah ça, c'est vous qui allez le voir en taillant, voir si justement ceux qui étaient en haut, donc les plus accessibles au froid, si je puis dire, sont gelés. Mais peut-être qu'effectivement, en descendant, vous allez en trouver d'autres que vous allez pouvoir conserver. Mais l'intérêt justement du coup, c'est que vous allez pouvoir les tailler beaucoup plus bas et par conséquent, donc rajeunir un petit peu votre baie. Ça leur fait du bien, les hortensias, ils ont besoin d'être taillés assez vert de temps en temps. Pas tous les ans, mais tous les 5-6 ans, ça leur fait du bien. Ça enlève pas mal de bois enchevêtré, ça leur redonne une nouvelle jeunesse.
Voilà, Germaine. Non, merci beaucoup à vous. C'est très gentil, mais bon, on aimerait bien discuter, mais il y a d'autres appels. On va faire une petite pause, mais en musique, et puis on retrouvera Madeleine, qui est à Trégueux dans quelques instants.
Les experts jardins jusqu'à 10h, en direct de Saint-Brieuc.
En Bretagne, le monde associatif bouge. Tous les jours, France Bleu Armorique vous présente une association de notre région à 6h50, 12h25 et 18h40. La sauce armoricaine, un rendez-vous France Bleu Armorique.
France Bleu Armorique, parole d'agriculteur.
Bonjour, donc Dominique Roland, je suis agriculteur à Surzur, sur une exploitation de polyculture élevage et avec un élevage donc de blonde Aquitaine. J'ai eu la chance d'avoir un taureau de sélectionné pour le concours du Salon de l'Agriculture. Alors l'animal a été sélectionné suite à plusieurs concours. La dernière échéance, c'était au mois de juillet 2016, donc au concours national de la race blonde Aquitaine. Pendant 3 mois, donc, le taureau est sorti du troupeau de façon à ce qu'il ne saillisse pas, pour éviter les accidents, puis la perte de muscles, etc. Donc l'animal est séparé, préparé avec une alimentation équilibrée. Alors le transport, nous avons la chance en Bretagne d'avoir 5 animaux de sélectionner, on a organisé un transport, donc les 5 animaux bretons partent dans le même camion. L'intérêt d'être présent à Paris, c'est de faire connaître justement son élevage, surtout quand on a une optique de génétique plutôt que de production de viande, et c'est l'intérêt de se faire connaître.
France Bleu Armorique, parole d'agriculteur.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, quel autre grand amour? Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nul autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de mes
habillés matin, pauvres et malandrins, au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin.
C'est beau quand on n'a que l'amour et le et monde entier. Voilà, c'était Morane et les Enfoirés sur France Bleu Armorique.
Bienvenue à Saint-Brieuc, émission Jardin en direct du Salon de l'Habitat.
Des salons de l'habitat où nous visiterons tout à l'heure avec Félix Legrand dans ses allées, ceux qui font de la construction, des maisons en bois, des maisons passives. On parlera aussi de gens qui travaillent pour tapisser des meubles, par exemple, des fauteuils. Et puis on aura aussi un paysagiste, parce qu'on n'oublie pas que le jardin est important. Et c'est ce qu'on découvre aussi au 02 99 67 35 35 avec Philippe Munier. En direct également ici de ce parc de Brésiliers près de Saint-Brieuc. Et nous avons Madeleine qui est à Trégueux. Bonjour. Madeleine ?
Oui, bonjour à vous deux.
Madeleine, un cactus à aloe vera qui a des soucis ?
Oui, le bord des feuilles, il y a des, comment vous dire, des taches noires.
Ouais.
Alors je pense que c'est un parasite, mais je ne sais pas trop comment l'éradiquer.
Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ce parasite ?
Alors, des taches noires, déjà, ça peut aussi être un champignon, hein, tout simplement. Donc, c'est pas forcément une bébête, hein, ça peut être aussi un champignon. Et souvent, alors, l'aloe vera, c'est une plante qui a besoin de chaleur, qui a besoin de lumière, mais il faut faire attention à ne pas lui mettre trop de soleil direct, parce que dans ces cas-là, si elle prend un bon coup de soleil direct, ça lui prend un coup de soleil. Et oui, du coup, sur un coup de soleil.
La crème bronzante, non.
Oui, alors, on met pas là. On met pas la crème, non.
D'accord.
On met juste un petit voile devant la porte vitrée, et comme ça, ça évite à la plante de ramasser des coups de soleil, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que les tissus ont brûlé, et dessus, c'est y a des champignons qui se développent, et je pense que c'est quelque chose comme ça qui a dû lui arriver à votre aloe vera. Elle est en pleine terre dehors.
Oui, genre.
Ah ben non, c'est le froid. Alors dans ce cas-là, c'est l'inverse, c'est pas la chaleur, c'est le froid.
C'est le froid.
Et voilà.
Oui, j'en ai deux grands qui font au moins pas loin d'1m20. D'accord. Et puis plein de petits, quoi.
Ouais. D'accord, d'accord.
Et donc, écoutez, en fait, tu protèges du froid.
Ouais, mais elles ont dû prendre un coup de froid quand même. Et du coup, l'endroit qui a brûlé par le froid, il y a des petits champignons qui se développent. Donc, éventuellement, si vraiment ça se propage, ça continue, avec un cutter bien affûté et bien dégraissé, parce que il faut pas qu'il y ait la graisse, il y a de l'huile sur les lames de cutter qui est très mauvaise pour les plantes. Et là, vous enlevez carrément la partie qui est marchée, et l'aloe vera, c'est bon pour la peau, mais c'est aussi bon pour se cicatrise toute seule comme une grande.
Ouais, donc, voilà, faut pas trop vous affoler.
Non, je coupe les feuilles mauvaises, en fait.
Voilà, c'est ça. Pas forcément la feuille, juste la partie qui est pas belle. Oui, elle va se cicatriser après. Il n'y a pas de problème.
Voilà, merci. Bonne journée à vous, Madeleine. Au revoir. Nous avons Robert qui est à Lanester, dans le Morbihan. Bonjour, Robert.
Bonjour, oui.
Alors, vous voulez mettre du désherbant, c'est ça ?
Oui, sélectif, sur des rosiers.
Oui. Et?
Et je voudrais savoir si ça... Parce que comme j'ai pas mal de rosiers, et puis biner entre les rosiers, c'est pas évident, quoi. Hein?
Alors, c'est quoi? Vous voulez savoir le conseil pour...
Oui, pour voir si on peut mettre...
Un désherbant qui va bien, quoi. Qui,
Déjà, voilà. Moi, mon credo, hein, depuis à peu près 14 ans à ce micro, c'est pas de produits chimiques dans les jardins. Donc, je vous conseillerais certainement pas un désherbant. Si vous voulez avoir des jolis rosiers, vous pouvez mettre un paillage au pied de vos rosiers pour bloquer la croissance des petites plantes sauvages. Voilà, si vous voulez mettre du désherbant, vous le faites, c'est votre problème. Mais c'est pas moi qui vous le conseillerais certainement pas. Voilà.
Donc un bon
paillage, c'est très bien.
Oui, parce que j'ai vu, par exemple, un engrais désherbant rosier, spécial rosier.
Oui,
engrais désherbant spécial rosier.
Oui, il y a des trucs, vous savez, les trucs 3 en 1, 4 en 1, c'est toujours, c'est jamais bon.
C'est une marque connue pourtant.
Oui.
Mais non, a priori, la solution, c'est vrai qu'aujourd'hui, de pailler, d'avoir un joli sol et puis de la binette entre les deux, et puis ça marche bien aussi.
Il faut avoir un grand manche parce que c'est vrai que ça fait mal les rosiers, donc avec un grand manche.
On sait qu'il va falloir apprendre à ne plus utiliser ces désherbants parce qu'ils vont être heureusement interdits.
Dans très très peu de temps, on n'aura plus le droit, dans 2 ans, on n'aura plus le droit même de les acheter. Ouais. Donc habituez-vous à mettre du paillage et à passer un coup de binette, ça sera beaucoup mieux pour votre environnement et pour votre santé.
Voilà Robert, merci en tout cas de nous avoir joints ce matin.
Non, si je comprends bien, c'est pas bon alors.
Bah non,
voilà, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça.
Exactement. Merci à vous pour votre question. Merci et bon dimanche. Au revoir. Simone, qui est à Grandchamp. Bonjour, Simone.
Oui, bonjour. Ouais, c'était au sujet des framboisiers.
Ouais.
Alors, comment faut-il les tailler? Entièrement ou quoi?
Alors, vos framboisiers.
Ils sont très hauts, ils ont au moins 1,50 m de hauteur.
Oui.
Alors, j'ai coupé déjà juste le haut, au moins. Même pas un tiers, là, mais faut-il couper davantage?
Si vous voulez avoir des framboises au mois de juin-juillet, arrêtez de couper, parce que si, a priori, vos framboisiers, s'ils sont hauts comme ça, c'est des framboisiers remontants, c'est-à-dire qu'ils donnent la première année à l'automne, au mois de septembre-octobre, et puis la deuxième année, au printemps suivant, ils le redonnent une deuxième fois, donc ils remontent. Si vous les taillez trop sévères, vous n'aurez pas de remontée. Donc, taillez-les un petit peu, pour avoir des jolis bourgeons. D'ailleurs, vous devez voir
sur vos fronts.
Voilà, vous coupez au-dessus des plus jolis bourgeons. Grosso modo, ça fait réduire à vers 1,20 m, 1,30 m, par là, à peu près en moyenne. Et puis, comme ça, ils vont pouvoir redémarrer pour reproduire une belle fructification en juin-juillet, en général.
Oui, en général, ils donnent déjà à ce moment-là, juillet, oui.
Oui.
Et
voilà. Et puis après, par contre, une fois qu'ils auront donné 2 fois, ils ne donneront plus. Donc, dès la récolte, vous pouvez supprimer les cannes qui auront produit la deuxième fois, de manière à laisser de la place pour les suivantes.
Carrément.
Voilà. Et puis, quand vous avez fait la confiture de framboise, vous nous en apportez.
Voilà.
Hein? Ça marche?
Merci.
Une charlotte, j'aime bien aussi les charlottes.
Ah oui, pas mal. C'est bien les petites framboises comme ça. Un moelleux au chocolat avec un peu de framboise, un coulis de framboise, c'est bon.
C'est pas
merci
mal
Simone, en tout cas, et très bon dimanche à vous. Je crois qu'on a une question sur l'asparagus, mais j'ai pas le prénom. Bonjour.
Bonjour. Allô.
Votre prénom, c'est
Gilbert,
vous nous appelez d'où, Gilbert?
Bain de Bretagne.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai un asparagus qui est très vieux. Et cette année, il a fait des graines.
Oui. Et vous voulez savoir si vous pouvez les semer?
Je voudrais savoir comment que ça se fait. Je n'avais jamais vu ça.
Ah, les autres années, il a jamais fait de graines, en fait, sa première année.
En fait, moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'il a fait un peu plus chaud que d'habitude cet été. Donc, il a eu suffisamment de chaleur pour fleurir, puis faire des graines, puis maturer ses graines. Donc, c'est très bien. C'est un peu embêtant pour la sécheresse qu'on a maintenant, mais par contre, pour votre asparagus, c'est super. Hein. Donc, vous récoltez les graines et ressemez-les, vous aurez plein de petits asparagus et vous pourrez en donner un peu partout autour de vous. Voilà.
Elles sont toutes brunes. Elles commencent à brunir les graines, donc il faut les décortiquer.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est la même graine que l'asperge. Hein. L'asparagus, c'est une mini asperge. Hein. Donc, vous les décortiquez. Et puis, je vous dis, amusez-vous à les semer. Normalement, ça devrait fonctionner.
Bah voilà, que du bonheur pour vous. Merci, tout cas. Bon dimanche. On retrouvera d'autres questions dans un instant sur France Bleu Armorique, le Jardin Bleu avec Philippe Munier, en direct du Salon de l'Habitat et du Jardin de Saint-Brieuc depuis le parc de Brésilliers.
Les experts jardins jusqu'à 10h, en direct de Saint-Brieuc. France Bleu. Micro-ondes.
Oh ouais.
Cette semaine, si vous emportez la finale de Micro-ondes, le jeu de 11h, vous partirez en famille ou entre amis naviguer le temps d'un week-end à bord d'une pénichette que vous piloterez vous-même.
C'est pas possible.
Confortable, tout équipé, vous prendrez du bon temps au fil de l'eau au départ de Saint-Martin-sur-Oust. Qualifiez-vous du lundi au jeudi et que la croisière s'amuse.
Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Sublime et silence, autour toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. Le vie t'aurait suffi. Le vie t'aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans la fleur que je te laisse après la nuit. Ces promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vie t'aurait suffi. Le vie t'aurait suffi. Te ressemble au moins en apparence, pourtant tu fuis. Le vie t'aurait suffi. Le vie t'aurait suffi. Et je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses. Tu détestes la mort aussi. Le vie t'aurait suffi. Le vie t'aurait suffi.
C'était Julien Doré sur France Bleu Armorique. France Bleu Armorique, toujours en direct du Salon de l'Habitat et du Jardin de Saint-Brieuc.
Bienvenue à Saint-Brieuc.
Émission Jardin en direct du Salon de l'Habitat.
Et bien sûr avec Philippe Munier, puisque nous recevons vos questions 02 99 67 35 35. Direction Campénéac dans le Morbihan. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors,
à tous les deux.
Qu'est-ce qui vous arrive, Marie-Christine ?
Eh bien, moi, je suis. Alors, j'avais cru faire une bonne affaire en mettant du broyage que j'avais pris chez un agriculteur qui avait été remonté. Et en fait, ça m'a mis plein de liserons. Donc, ouais. Je suis envahie de liserons.
Et alors, et vous voulez vous en débarrasser, je parie ?
Ben oui, parce que c'est dans mes asperges et voilà, dans mes rosiers et voilà.
Alors en fait, c'est pas forcément le paillage hein, qui a amené le liseron. Disons qu'il aime bien le paillage pour se développer, mais à mon avis, il y arrivait. Enfin, c'est pas forcément le paillage, on va dire. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une plante casse-pied, ça faut reconnaître, difficile à extirper du sol.
On arrache, ça revient.
La meilleure période, c'est maintenant. Parce que du coup, il n'y a pas de végétation pour vous embêter. Donc, tranquillement, avec une fourche à bêcher, vous ouvrez le sol, vous sortez les grosses racines blanches, là, blanc ivoire, et vous leur enlevez le maximum. Et puis après, la solution, c'est ce que vous n'aurez pas vu et qui repartira, c'est de biner et encore biner. Parce qu'une plante qu'on empêche d'avoir des feuilles, il ne faut pas oublier que c'est les feuilles qui nourrissent les plantes. Hein, c'est la fonction chlorophyllienne. Donc, si on l'empêche d'avoir des feuilles, elle peut plus nourrir et si elle ne peut plus se nourrir, ben elle meurt.
Voilà. Voilà donc la technique, la solution. Donc on attend que les averses cessent et puis.
Entre deux giboulées.
Voilà, c'est ça. On prend son courage et puis on arrive quand même à éradiquer au bout de combien de temps ? Quelques mois peut-être ?
Moi je ne sais pas si on arrive à les enlever
non.
tous.
Eh, ça arrive, ça revient. Ça revient. Le liseron s'est attaché à vous. Voilà.
Non, mais c'est joli le liseron, mais c'est vrai que c'est un peu casse-pied, il faut reconnaître. Hein, mais quand c'est en fleurs, c'est magnifique.
Voilà, donc. Bon courage à vous.
Je vais vous demander également des conseils pour cultiver. Je ne sais pas si vous avez pour cultiver les patates douces.
Alors vous avez des patates douces en plant ou vous voulez en.
Je voudrais en cultiver.
D'accord.
Est-ce que je peux prendre une patate douce du commerce, enfin en bio ou quelque chose ou pas?
Oui, tout à fait. Et même, c'est même pas la peine de prendre toute la patate douce. Vous ne replantez que le collet de la plante, donc la partie supérieure, sur à peu près 5-6 cm. Et puis vous mangez le reste. Et c'est du collet que va repartir la plante, hein, qui est très belle d'ailleurs. Hein. C'est une plante grimpante qui se développe énormément. Et du coup, la
racine. C'est tubercule quand même, hein, c'est ça. Ouais,
et la racine va redémarrer. Mais sinon, depuis quelques années, depuis 2 ans maintenant, on trouve dans le commerce, en jardinerie, on trouve des plants de patates douces. C'est des variétés qui ont été sélectionnées pour la production sur le territoire national. Hein, et donc, c'est beaucoup plus adapté à nos climats que des patates douces que vous pourriez trouver qui viendraient d'Afrique ou d'Asie ou de serre. Donc là, voilà, on peut trouver. On les trouve en général à partir du mois d'avril. Les plantes pas trop tôt parce que ça craint le gel. Ouais. Donc attendez tranquillement le mois de mai un petit peu comme pour les tomates.
Voilà.
Il vaut mieux les mettre en serre ou il vaut mieux les mettre à l'extérieur?
En pleine terre. Alors on peut les mettre à l'extérieur. Par contre, si vous voulez avoir une belle production, c'est vrai qu'en serre, il fait plus chaud.
Elles vont être plus grosses.
Voilà, elles sont plus grosses.
Voilà. Merci de vos deux questions exceptionnelles, Marie-Christine. Bonne journée à Campénéac. On revient à Rennes avec Liliane. Bonjour.
Oui, bonjour à vous tous et déjà merci pour votre émission.
Mais on vous en prie.
J'ai bien écouté dimanche dernier pour les hortensias qu'il fallait les tailler et laisser la branche où il y avait les petits bourgeons. Seulement, on a taillé, nous, plutôt, je pense, début janvier, et on a laissé ce qu'on pensait être peut-être des bourgeons, mais à l'heure actuelle, ce sont des feuilles qui poussent. Est-ce qu'il faut retailler ou est-ce que la fleur est dans les feuilles ?
En fait, la fleur, elle est déjà faite, mais vous ne la voyez pas. Hein, vous ne la verrez qu'à partir du moment où le bourgeon va se développer. Mais l'ébauche du bourgeon, elle est déjà faite, elle est déjà au cœur des feuilles. Et donc, vous allez voir arriver la feuille. Donc, quand on laisse bien le bourgeon, ça fait la première floraison qui, en général, a lieu, suivant les variétés, entre la fin mai et la fin juin pour la première floraison. Voilà.
Ah ben écoutez, bon, c'est formidable.
Donc attendez un petit peu, voilà, faut être patient. Voilà, ça va, ça va s'arranger.
C'est formidable, merci beaucoup.
Et ben de rien en tout cas, avec plaisir. Et à très bientôt sur France Bleu Armorique et Liliane. Nous avons Jean-Michel, pardon. Bonjour.
Bonjour, oui, je
ne
suis pas encore
devenu un homme. Mais non, voilà, c'est que vous comprenez, les lunettes, il y a eu un petit peu d'embrun, c'est pour ça, je lis plus mal, vous savez, c'est ça nos âges. Vous êtes à Saint-Malo, Jeanne-Michel, qu'est-ce qui vous arrive ?
Oh, mais rien que des bonnes choses.
Ah, super.
M'a gentiment donné du crottin de cheval et j'aimerais savoir si Philippe peut me conseiller sur les quantités à mettre en fonction des de divers végétaux.
Ah, d'accord, oui.
Alors le crottin de cheval, c'est en plus un super produit. Hein, donc autrefois, les gens, quand le lait était livré par une carriole à cheval, on allait récupérer le crottin de cheval. Ouais. Et surtout pour les rosiers, parce que les rosiers adorent le crottin de cheval. Alors faut pas en mettre trop, évidemment. Hein. L'avantage du crottin de cheval, c'est que c'est très riche en herbes et en herbes qui n'est pas complètement digérée, parce que le cheval il digère mal, parce qu'il a qu'un seul estomac, contrairement à la vache qu'on a plusieurs. Ouais. Et donc du coup, c'est toute cette
matière
partie
organique,
qui est, voilà, cette matière organique qui est mal digérée, ben c'est celle qui va finir de se digérer dans votre sol et qui va nourrir votre sol. Donc c'est vraiment très très nutritif. On peut en mettre donc au pied des rosiers, on peut en mettre au potager. Alors surtout, comme d'habitude, on n'enfouit jamais la matière organique. Hein, on met bien en surface, éventuellement en délite. On peut mélanger avec un petit peu de paille broyée si on veut, pas que ça soit trop trop fort. Toujours en surface. Et là, vous pouvez en mettre sans problème pour toutes les plantes gourmandes. Alors les artichauts, oui, tout à fait. Alors pour les artichauts, vaut mieux là aussi pour que ça puisse bien s'étaler. Moi j'aime bien mélanger le crottin de cheval. Je le mélange soit avec de la paille broyée, soit avec de la paillette de lin quand j'en trouve. Et j'en trouve assez régulièrement, ça va.
Quand je trouve que...
Ou bah la cause de sarrasin, c'est super aussi. Et du coup ça vous permet de mieux l'étaler en fait.
Voilà. Oui, disons que le problème, c'est que j'ai un chat et un chien, et j'ai peur que le chien aille, surtout la chienne, Zoé, aille fouiner un peu là-dedans. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour se faire de mettre le crottin de cheval et le sarrasin dessus ?
Ah ben si, éventuellement, oui. Mais de toute façon, le chien, s'il a envie d'aller manger du crottin, il poussera le sarrasin pour le manger. Hein. Mais ça leur fait pas de mal. Hein. En général, quand ils mangent du crottin de cheval, c'est parce qu'ils en ont besoin.
Ah oui. Bon, ben voilà, on apprend tout. Il est vétérinaire, en plus, il fait tout, Philippe. Merci beaucoup.
Je suis consolé parce que c'est à Yorkshire, donc je risque pas les rouades.
Voilà, oh, ça va. Non, c'est clair. Merci, Jeanne-Michel. Très bon dimanche à vous. On va repartir en musique. Et puis après, on retrouvera Nicole à Langueux qui a un problème avec son ficus. Et puis Jean-Baptiste qui lui aussi veut mettre de l'amendement sur son jardin. À tout à l'heure donc avec vos questions.
Les experts jardins jusqu'à 10h en direct de Saint-Brieuc.
Énergie, l'inventeur de la garantie 10 ans.
C'est parce que nous sommes le premier réseau de chauffagistes indépendants que nous assurons l'installation et l'entretien, que nous pouvons garantir votre chaudière 10 ans. Un nouveau système de chauffage, c'est plus d'économie, plus d'écologie et plus de confort. Et avec l'offre Eco-Bonheur, Axe Énergie garantit 10 ans votre nouvelle chaudière.
Offre soumise à condition. Contactez votre artisan Axe Énergie le plus proche sur axeenergie.net. L'énergie est notre avenir.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Jerk, le Jerk, Thierry Hazard sur France Bleu Armorique.
Je vais à la poste. Toi qui aimes télécharger des films, tu devrais venir.
Genre, on télécharge des films à la poste.
Mais oui, mon chéri. Et très vite, avec la box très haut débit, la poste mobile. En plus, il y a près de 200 chaînes télé. Et elle est seulement à 14,99€.
À la poste mobile? Oh, tu te fais un film, là.
Et non, à la poste mobile, la box très haut débit est au prix incroyable de 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 31,99€. Appelez gratuitement le 3009 ou rendez-vous en bureau de poste. La poste mobile. Offre sous conditions et sous réserve d'éligibilité, location 5€ par mois, engagement 12 mois.
Mes douleurs nocturnes? Depuis ma cure thermale à La Preste-les-Bains, je leur tourne le dos.
À La Preste-les-Bains, dans les Pyrénées, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 93% des curistes interrogés ont retrouvé des nuits plus paisibles. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr.
Suivons Stéphane dans sa visite privée d'une véranda à Kéna.
Je suis très heureux de vous faire découvrir cette véranda exceptionnelle, installée par l'une des 65 agences Akena présentes en France.
65 agences ?
Oui, et ce n'est pas tout. Savez-vous que chaque projet est pris en charge par un technicien conseil Akena, qui le suit pas à pas jusqu'à l'installation ? C'est royal, non ?
Réalisez à tout moment votre demande de devis gratuit sur akenaveranda.com.
Akena, la reine des vérandas.
Les experts jardins jusqu'à 10h en direct de Saint-Brieuc.
Avec dans quelques instants l'ouverture des portes ici pour ce salon de l'habitat où nous sommes installés et avec Philippe Munier. Bien sûr, on donne tous les conseils jardins. Vous pourrez en obtenir ici si vous venez aussi auprès des professionnels qui sont présents. Et on accueille vos questions 02 99 67 35 35. Nicole à Langueux. Bonjour Nicole.
Bonjour. Et merci de vos conseils. Voilà, c'est au sujet d'un ficus dont les feuilles sont collantes et poisseuses.
Mmh. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Alors en fait, quelque part dans votre ficus, il y a caché sous les feuilles ou à la base, soit des cochenilles. Alors ça, les cochenilles, ça peut être des cochenilles farineuses, donc ça fait comme des petits points blancs, comme de la petite mousse. Ça peut être des cochenilles à bouclier. Dans ce cas-là, ça fait comme des petites pustules brunes qui seraient posées soit sur les feuilles, soit sur le jeune bois. Mais souvent, elles aiment bien être sur les nervures centrales de la feuille, mais en dessous. Ou alors des pucerons. Alors, de toute façon, dans tous les cas, c'est un insecte piqueur suceur qui donc boulotte tranquillement la sève de votre ficus et comme quand ça rentre d'un côté ça ressort de l'autre, et bien ça ressort sous forme d'un mielas sucré qui tombe sur les feuilles et qui les rend poisseuses et surtout le gros inconvénient c'est que ce mielas sucré peut servir de support à un champignon qui s'appelle la fumagine qui peut se développer de manière très très rapide et qui noircit les feuilles. Et en fait comme je le disais tout à l'heure, hein, les plantes elles se nourrissent grâce à la fonction chlorophyllienne, à la lumière sur les feuilles, donc s'il y a le champignon qui se développe sur la feuille, la plante ne peut plus se nourrir et donc elle meurt. Donc il faut réagir. Première chose, vous lavez votre ficus, vous en lavez les feuilles avec de l'eau tiède, hein, simplement. Et puis dans la foulée, vous rajoutez un petit peu de savon noir et vous pouvez avec sans problème avec ce type de produit tuer des cochenilles, mais ça va risque de durer un petit peu longtemps. Donc on fait des séries de 3 pulvérisations d'eau savonneuse. Donc 3 jours de suite, vous laissez passer une semaine, vous enlevez, regardez si il y en a encore et si elles se décollent. Si elles se décollent, c'est qu'elles sont mortes. Si elles se décollent pas, c'est qu'elles sont encore vivantes. Et vous recommencez 3 jours et puis vous laissez passer encore une semaine et ainsi de suite jusqu'à la disparition des sales bébêtes.
Voilà.
Je ne les vois pas, enfin non, on les voit pas du tout, hein, les cochenets.
Oui, mais elles sont forcément là. Hein, elles sont forcément là parce que sinon il y aurait pas de mielas sucré sur vos feuilles. Donc voilà. Il faut chercher.
Est-ce qu'il faut le tailler ? Parce que mon mari le taille et après il passe du savon noir. On le fait, hein. J'écoute vos conseils, donc je sais quoi. Et vous aviez dit aussi d'enlever la terre, parce qu'il est dans une véranda, donc il y a quand même des écarts de température. Entre l'été, ouais. L'hiver, et je ne peux pas le sortir, il est trop lourd. Hein.
Ouais. Non, on peut le tailler sans problème. Le ficus, ça se taille très très bien. Hein.
D'accord.
Au contraire, ça permet de contenir un petit peu, parce que des fois, ça part très haut. Donc là, ça permet de le contenir. Non, il n'y a aucun problème.
Vous pouvez y aller. Et vous pouvez dire à votre mari que c'est bien.
Il continue, voilà. Ça va voir, c'est bien.
Et j'essaie d'ouvrir un petit peu, parce que c'est vrai qu'il souffre peut-être de chaleur. Bon, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et puis, bonne journée, merci.
Merci Nicole, bonne journée à vous et très bon dimanche. Jean-Baptiste est à Château-Giron.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Les amitiés à tout le monde.
Nous aussi, on vous les renvoie, ces amitiés.
Donc à la maison, j'ai des poules.
Ouais.
J'ai un petit poulailler, un petit chalet avec 12 poules dedans. Donc j'habite un lotissement et puis je n'ai pas du tout de mousse sur la pelouse. Par contre, je bricole un petit jardin. Est-ce que je peux mettre les crottes de poules comme amendement dans mon petit jardin?
D'accord. Alors, la réponse est oui, mais avec modération. Hein. C'est comme pour d'autres choses.
Comme l'apéro.
Voilà, c'est comme okay. L'apéro, c'est ça. Donc, les fientes de poules, c'est un très bon engrais, très riche en azote. Donc, vous n'en apportez que pour les plantes qui ont besoin d'azote. Donc, en général, celles qui vont faire des feuilles, c'est des choux, les salades et compagnie. Et surtout, en apporter des très petites quantités, et surtout pas aux plantes qui vont faire des fruits. Parce que si vous leur mettez trop d'azote aux plantes qui vont faire des fruits, elles ne pourront pas fructifier correctement. Donc, je pense aux tomates, par exemple. On en met un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu en début de saison, et après, on arrête la fiente de poule, parce que sinon, il n'y aura pas de tomates.
D'accord.
Donc, voilà. Mais c'est vraiment il faut y aller vraiment avec parcimonie, et si vous avez un petit jardin, et qu'à côté, vous avez 12 poules, je pense que vous allez pouvoir en donner aux voisins.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est un commerce.
Les gens ont des poules chez eux pour qu'il n'y ait pas de mousse sur le gazon.
Entre autres, l'avantage des poules, c'est d'abord c'est des composteurs à pâtes, ça fait des œufs, ça mange les carpocaps, les tipules dans les gazons.
Voilà,
c'est vraiment un animal très très utile au jardin. Hein.
Voilà.
Ça s'envole pas non plus très loin, donc il n'y a pas de souci.
On coupe un peu les rémiges et puis c'est bon.
C'est ça, c'est clair. Merci pour votre question, Jean-Baptiste. Bon dimanche à vous. Yves à Ploufragan, on revient en Côte d'Armor. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors,
j'ai un petit problème dans mon jardin. J'ai deux rhododendrons. Il y en a un qui est magnifique. Il a des belles feuilles vertes bien étendues, bien perpendiculaires à la tige. Et le deuxième, lui, a les feuilles tombantes et qui ont plein de taches brunes.
Alors ça, c'est quand les feuilles du rhodo commencent à tomber, c'est pas bon signe. Hein.
Non, mais elles piquent vers le sol.
Oui, c'est ça. Oui, non, mais ouais. C'est à ça que je pense. Oui, quand elles piquent du nez vers le sol, c'est pas bon signe. Ça peut être, enfin, c'est même souvent le début de la fin. Ça peut être du phytophthora, hein, donc un champignon du sol. Certaines variétés de rhododendrons sont beaucoup plus sensibles que d'autres, ce qui fait qu'effectivement deux rhodos l'un à côté d'autre, il y en a un qui peut être sensible et l'autre pas. Ça peut être ça. Ça peut être des problèmes d'excès d'eau aussi. Un excès d'eau au pied d'un rhodo, d'eau stagnante, donc ça peut provoquer ce genre de choses. Ça peut être aussi la sécheresse, parce que les symptômes sont les mêmes. En fait, les symptômes visuels sont les mêmes si la plante a trop d'eau ou si elle n'en a pas assez, parce qu'elle réagit en fait de la même manière. Et puis voilà. Et les taches brunes, ça m'inquiète un petit peu. Je penserais quand même, je craindrais même le phytophthora, parce que si c'est le cas, votre arbre, votre arbuste, il est fichu.
Il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire.
Il n'y a aucun traitement.
Non. Je peux vous donner des trucs, mais ça ne marche pas de toute façon.
Ah ouais,
donc voilà, je préfère dire, si c'est le phytophthora, vaut mieux l'enlever et puis c'est tout.
J'avais essayé des purins de prêle et purins de consoude. J'ai l'impression que ça donnait un petit plus, comme ça améliorait.
Alors, la seule chose effectivement qu'on peut faire, c'est de le nourrir, mais avec parcimonie. Donc effectivement, des purins bien dilués, ça apporte, des sels nutritifs, mais en petite quantité, et de manière à l'aider à résister à la maladie. Mais si la maladie est là, j'ai grand peur que voilà. Mais d'accord. Tentez le coup, effectivement. Ouais.
On peut tenter la chance. Voilà. Merci.
Ouais. Et si je l'enlève, je ne remets rien à la place.
Ah non, alors il existe, faut faire une recherche, il existe des plantes qui résistent au phytophthora. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui sont relativement jolies. Donc si vous l'enlevez, vous pourrez mettre que ces plantes-là. Voilà.
Merci à vous, on va très très vite parce qu'il ne nous reste que deux petites minutes. Joindre Yvette qui est à Mordel, bonjour.
Oui, bonjour. Moi je suis envahie de cyclamen, donc il y a des endroits où ça me plaît bien, mais c'est plutôt qu'il y en a plein sur la pelouse, et dans quelques temps ce ne sera plus de la pelouse, ce ne sera que des cyclamen. Que dois-je faire?
Oui, c'est original.
Moi, personnellement, j'aurais une pelouse de cyclamen, je serais très content, j'enlèverais le gazon.
Je vais faire l'année à ce moment-là. Et que j'ai des fleurs à la saison.
Ouais. Alors en fait, c'est facile comme tout, le cyclamen, c'est un gros bulbe. Hein, donc,
enlevé quelques-uns au départ, mais ça fait des trous.
Bah oui, mais dans ce cas, à chaque fois que vous avez un trou, vous rapportez un petit peu de terre, un petit peu de compost.
Il y en a quand même pas mal.
une petite poignée de graines, et puis hop, c'est reparti pour votre gazon. Et puis, bah voilà, et après, vous pouvez en donner à droite, à gauche. Hein,
Ouais, c'est une chance.
Autrefois, on nourrissait même les cochons avec, hein, on l'appelait le pain de pourceau. Ça peut faire des très, très gros bulbes, hein, de 4-5 kilos. Hein,
Alors, comme vous entendez tout à l'heure parler, il suffisait d'enlever les feuilles pour que la plante meure, je me dis, est-ce que c'est la même chose?
Oui, c'est pareil, mais alors, ça me ferait mal de faire ça des cyclamènes, quand même. Mais c'est exactement pareil, ça marche. Bah, la seule chose, c'est que, en fait, le bulbe va rester, donc la plante va continuer sur ses ressources jusqu'au moment où les ressources seront à zéro, hein, où le bulbe sera complètement vidé, et dans ce cas, ça mourra. Alors, ça met plus longtemps qu'un chien, non, par exemple, parce que le cyclamène, il a une grosse réserve. Mais ça fonctionne de la même manière. Hein, si vous l'empêchez d'avoir des feuilles, si vous tondez, vous débroussaillez systématiquement les feuilles, les bulbes, au bout d'un certain temps, vont se vider de leur substance, et voilà. Je crois que le plus simple, ça serait quand même de les enlever, et puis vous ramenez un petit peu de terre, un petit peu de compost et une petite poignée de graines, et puis vous faites regagner votre gazon tout doucement sur vos cyclamènes.
Voilà, Yvette. Bon courage, bonne journée.
Merci
et bon dimanche. Ben voilà, c'est avec Yvette qu'on va se